Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission Les mots des livres. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h. Je suis Laurence et au programme de ce lundi, deux invités, deux femmes, deux autrices. La première, Anne Michel, qui va nous parler de son dernier roman qui s'intitule N'oublie pas la lumière. C'est paru aux éditions Terre de France, qui fait partie des presses de la cité. Puis nous retrouverons Lily Saune qui va nous parler d'un album qui devrait beaucoup parler parce que ça parle d'actualité. Mon village révolté, c'est une bande dessinée retrouvée aux éditions Delcourt dans la collection Ancrage. Mais avant cela, on va écouter un peu de musique avant de retrouver nos deux invités. À tout de suite.
À l'abri des passants, au bout d'une ruelle, moi je suis l'artisan des choses les plus belles. Pour faire rêver les gens d'un tour de manivelle, en m'appliquant, je fais les choses les plus belles. Je fais au mieux dans ma fabrique, je fais ce que je peux dans l'arrière-boutique. Je passe mon temps à mettre en flacon ces choses qu'on trouve pas dans vos rayons. Je mets des mots dans des alambics, j'ai des stocks de notes uniques. Je vends du vent et des voix d'ailleurs, je bricole des rêves, je me lève à pas d'heure.
À l'abri des passants, au bout d'une ruelle, moi je suis l'artisan des choses les plus belles. Pour faire rêver les gens d'un tour de manivelle, en m'appliquant, je fais les choses les plus belles. Je regarde la vie sur le trottoir, y a des cœurs rouillés que je répare, des tas de souvenirs que je restaure dans l'atelier derrière mon store. Y a plein de sourires devant ma vitrine, c'est mieux que la vie tout ce que j'imagine. Amuseur ou caresseur d'âme, ouvert même la nuit, messieurs dames,
à l'abri des passants, au bout d'une ruelle, moi je suis l'artisan des choses les plus belles. Pour faire rêver les gens d'un tour de manivelle, en m'appliquant, je fais les choses les plus belles. Au bout d'une ruelle, moi je suis commerçant des choses les plus belles. Pour faire rêver les gens, sourire la clientèle, je fais comme mes parents, je tourne la manivelle.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Et nous retrouvons Anne Michel. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre dernier roman. Il s'intitule « N'oublie pas la lumière ». C'est paru aux éditions des presses de la cité dans la collection Terre de France. Mais avant de parler de ce roman, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos amis auditeurs? Car ce n'est pas votre premier roman, bien au contraire.
Non, en effet, j'ai publié déjà quatre romans auprès de la cité. Mais d'abord, merci de me recevoir, ça me fait très plaisir. Oui, je publie depuis 2017. Donc, j'ai commencé quand j'étais encore enseignante. Et puis, depuis, je me suis reconvertie, mais je continue à écrire. Et voilà.
Et c'est un roman qui fait du bien. Et pour cause, il parle un peu de nous. un peu de celles et ceux qui voient le temps passer et qui en même temps veulent se revenir dans ses racines, revenir auprès des siens. C'est l'histoire d'une femme, elle s'appelle Lou, et c'est aussi une vie qui va reprendre grâce à un projet un peu fou, parce que ils vont repartir de zéro dans une ancienne ferme. Expliquez-nous déjà comment vous est venue l'idée de ce roman.
Alors l'idée de ce roman, on pioche beaucoup, je pense, tous les écrivains font ça dans leur propre histoire. Et moi, ce roman, c'est d'abord un lieu, puisque je suis publiée dans la collection Terre de France. Et pour qui c'est vraiment important d'avoir un lieu qui est au cœur du récit. Et ce lieu, c'est un tout petit bourg qui s'appelle Aujaguet, en niché au cœur des Cévennes, et où j'ai passé, moi, toute mon enfance. Donc j'avais vraiment envie de situer un roman là-bas. Et puis après, le thème de tout lâcher pour aller reconstruire un nouveau projet, c'était un peu dans la ligne directe de moi avoir lâché un travail de fonctionnaire pour aller vers quelque chose de plus créatif, donc vers des projets qui font un peu plus sens. Et voilà, tout simplement, en fait, et après, les personnages poussent et vivent leur vie propre. Donc, l'histoire s'est développée sur cette base-là, mais a évolué ensuite.
Alors, dans cette commune, justement, dont vous connaissez tous les contours, ça va pas être si simple que ça, parce que lorsqu'on a ce type de projet, de nouvelle vie, on se retrouve face à parfois des obstacles dont on n'avait pas imaginé l'ampleur. Et là, c'est ce qui va arriver donc à Lou et à Xavier, parce que les travaux, c'est pas comme ça. Et ça peut effectivement faire des tensions. Et heureusement, Lou, c'est aussi un caractère.
Oui, tous ceux qui ont fait des travaux de rénovation le savent. On commence les travaux, mais on ne sait jamais quand ça finit, et on a beaucoup de mauvaises surprises. Et forcément, dans un couple qui change de vie comme ça, ça vient avoir un impact forcément sur la stabilité du couple et sur l'humeur du couple. Mais oui, Lou, c'est une battante, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait pourquoi elle a bougé, qui sait pourquoi elle est venue s'isoler dans ce petit hameau un peu perdu, puisqu'elle a ce projet donc de retaper cette maison et puis d'en faire un
lieu de vie.
Un lieu d'accueil pour les artistes, pour ceux qui ont envie de développer cette fibre artistique. Et donc elle sait pourquoi elle avance. Je crois que c'est vraiment important en fait pour tout le monde. On peut mener les projets à bien, même les plus difficiles, quand on sait pourquoi on le fait.
Et ce qui est formidable, c'est qu'aussi il va y avoir des belles surprises, que ce soit dans la demeure, que ce soit aussi des rencontres avec des hommes et des femmes sur place.
Mais heureusement que les obstacles ne génèrent pas que du négatif, et que parfois effectivement ça peut être la porte vers des rencontres, tout simplement des gens qui vont venir l'aider, puisqu'elle retrouve un homme qui vit sur place et qui l'a connue quand elle était toute petite, ce personnage, et qui va venir aussi mettre la main à la pâte. C'est de toute façon, globalement, quand on a des obstacles matériels, l'humain et les rencontres qu'on fait et les liens qu'on tisse sont ce qui va nous permettre de d'accomplir les choses et puis de dépasser ces obstacles matériels.
Et vous voulez aussi évoquer dans votre ouvrage l'importance de cette province, de ces endroits plus reculés, ces villages, qu'il est important d'y remettre de la vie et que les jeunes, c'est aussi eux cette ressource qui permet de faire entrer des familles, de rouvrir des écoles. C'est aussi important pour ces villages de voir ces gens qui reviennent de la ville.
Oui, pas longtemps après la Covid, moi j'ai eu l'occasion d'aller marcher sur le chemin de Stevenson, donc j'ai traversé aussi beaucoup de petits villages, et j'ai vu qu'il y avait un regain. Sans doute les gens se sont rendus compte que c'était bien de migrer vers les campagnes à nouveau, et c'est vrai que ça m'a fait à la fois plaisir, et en même temps ça montre aussi la manière dont tous ces territoires-là ont été désertifiés en fait. Et c'est triste, moi, c'est des lieux vraiment où j'ai vécu des très belles années. Il y a une richesse de la nature, il y a un contact avec les gens, justement, parce que c'est des petits lieux, en fait, où tout le monde se connaît. Et petit à petit, les jeunes sont partis. Et je trouve ça important de parler de ces choses-là aussi, Et moi, je vis en ville, hein, mais je trouve que c'est vraiment essentiel d'aller revivifier ces lieux de nature, ces lieux qui portent du sens en eux. Et oui, je crois que le projet de mon personnage vient aussi de là, de cette envie de mettre à l'honneur ces campagnes, ces petits hameaux et parfois la tristesse qui peut venir quand on les traverse et qu'on voit que beaucoup de boutiques sont fermées, que finalement il n'y a plus beaucoup de vie dans ces lieux-là, alors que ce sont des lieux magnifiques.
Et on peut aussi rappeler que c'est pas parce qu'on habite dans ces lieux-là qu'il n'y a pas toute cette angoisse humaine qui peut conduire à des dépressions, à des divorces. Hein. C'est évoqué aussi dans votre ouvrage et c'est aussi important de le dire.
Oui, tout à fait. Et le personnage justement qui est resté là, lui, par attachement aussi à la terre, il est aussi très isolé. Et je pense que cette solitude-là, oui, elle fait beaucoup de mal. Enfin, on le sait aussi hein, que chez nos agriculteurs, il y a énormément de cas de suicide, de dépression, et parce que justement, il y a un isolement. Et en fait, se rompre cet isolement-là, c'est aussi aider les gens à pouvoir continuer le métier qui a du sens pour eux et le faire bien, quoi. Et le faire dans de bonnes conditions. Donc oui, j'ai abordé aussi ces sujets-là parce que moi-même, j'ai vécu au moment de ma reconversion un épisode de dépression assez lourd et j'avais aussi envie de montrer que ça n'arrive pas qu'aux autres et que c'est important d'essayer de le comprendre quand soi-même, on n'en a pas vécu parce que les gens qui entourent sont souvent assez impuissants et ignorants de ce qu'est réellement cette maladie. Et je trouvais ça aussi important de mettre ce thème-là dans le récit.
Et on peut dire que le couple, malgré tout, peut survivre à ce type de changement de vie ou c'est plus complexe que ça?
Je pense que ça dépend beaucoup de si le projet est commun ou pas. Ça dépend beaucoup de la manière dont le couple communique. Et oui, ce genre de projet, en fait, je pense pas que ce soit le projet de vie en lui-même qui puisse... souder ou faire exploser un couple. Je pense que les ruptures ou les liens sont là avant et c'est ce genre de projet peut les révéler par contre.
Oui, voilà, c'est ça, révéler. Voilà. Et on peut dire que Lou, elle se révèle hein, dans cette expérience, dans cette nouvelle vie qu'elle se donne. C'est vraiment ce qu'elle attendait de cette arrivée dans la trentaine.
Oui, tout à fait. Elle, c'est son épanouissement. Après, est-ce que c'est celui de son mari? Est-ce que c'est celui des gens qui la fréquentent? Il faut lire le livre pour le savoir. Mais elle, c'est évident que c'est un choix conscient et voulu et assumé. Et donc je pense que quand on est droit dans ses bottes, quand on fait un choix, ça ne peut être qu'épanouissant malgré les difficultés qu'on peut rencontrer sur le chemin.
Et on voit que cet enthousiasme, elle essaye d'en faire son parti et d'emmener avec elle toutes celles et tous ceux qu'elle croise, car c'est vraiment voilà ce qu'elle veut faire, son projet de vie. Et on va donc suivre ce parcours avec Lou et puis tous ces personnages qu'elle va croiser qui vont lui rappeler aussi hein, que cette vie de la campagne, c'est aussi des difficultés, des choses à construire de nouveau. Et elle va essayer d'y parvenir avec son compagnon Xavier. Va-t-elle y parvenir toute seule ou avec lui? Ça, comme on le disait, on le découvre tout au long de ce roman. Et c'est un roman aussi qui parle à tous parce que, comme vous le rappeliez, avec la Covid, beaucoup de gens se sont remis en question, ont voulu tourner une page dans leur vie en ville et partir à la campagne ou au contraire se séparer d'un métier qui les empêchait d'avancer. Et c'est un peu tout ça qu'on retrouve dans ce roman. Et quand vous dites hein, dans le titre « N'oublie pas la lumière », c'est aussi parce que c'est un roman sur la lumière.
Oui, oui. En fait, je trouvais ça important de ne pas idéaliser non plus justement ce retour à la terre qui va avec son lot de difficultés et qui, parfois, quand on est citadin, on se figure pas justement l'isolement que ça peut représenter, les difficultés qu'on peut y rencontrer. On voit les choses de façon un peu idyllique. Mais le n'oublie pas la lumière, c'est parce que l'eau, justement, elle a cette lumière-là, elle a ce but-là qui la nourrit. Et en fait, quand on est face aux difficultés, on a tendance parfois à oublier. Ça a oublié le but, à oublier ce qui nous permet de tenir le cap. Et je pense que n'oublie pas la lumière, c'est quelque chose que chacun des personnages pourrait se dire à lui-même ou dire à l'autre au fur et à mesure du livre, au fil de différentes étapes, dans les moments sombres. Voilà, il faudrait qu'on puisse avoir un petit ange d'épaule comme ça qui vient nous dire n'oublie pas, qu'il y a la lumière au bout du chemin, qu'il y a la lumière, tu vas traverser ça, mais ça va aller. Mais voilà, ne pas nier le côté sombre non plus. Et c'est les deux en fait qui font à la fois l'histoire et qui font la vie en fait. Hein. C'est très bateau de dire ça, mais l'un va pas sans l'autre. Et voilà, je trouvais ça intéressant aussi de faire quelque chose qui soit ni dans l'idéalisation ni dans le cliché par rapport à ça, justement ce retour à la terre dont vous parlez, ce retour à la campagne.
Alors, peut-être que ça va susciter des vocations à la lecture de N'oublie pas la lumière. Hein. Peut-être certains de vos lecteurs vont vouloir, eux aussi, partir sur le chemin de leur enfance en retournant sur le lieu qui, à la fois, leur a amené du bonheur, des joies et peut-être y retrouver un peu d'espérance dans leur vie qui peut-être est un peu plus difficile. Et en tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors n'oublie pas, la lumière vient de paraître aux éditions Presse de la Cité dans la collection Terre de France. Alors, j'imagine que vous êtes peut-être déjà à l'écriture du suivant ou pour le moment vous faites la promotion.
Oui, c'est en cours, mais il y a toujours un petit peu la petite dépression postpartum. Ah. Après la publication d'un livre, on a besoin de se poser un moment et puis avant de redémarrer dans autre chose, dans un autre projet. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais oui, il y a déjà des nouveaux personnages qui poussent dans la tête. Ce qu'ils deviendront et sous quelle forme, je ne sais pas encore, mais j'espère pouvoir, poursuivre en tout cas ce beau voyage de l'écriture.
Et je m'interroge toujours lorsque justement on referme un tel roman, est-ce que vous voudriez retrouver certains de ces personnages dans peut-être une suite ou au contraire?
On me demande beaucoup ça et en fait non, moi c'est vrai qu'à chaque fois j'ai l'impression de saisir mes personnages à un moment clé de leur vie, de les accompagner à un moment, puis après de les laisser partir, un peu comme des enfants, il faut qu'ils vivent leur propre vie.
D'accord.
Pour le moment j'ai pas eu vraiment envie de reprendre dans une suite mes romans précédents, mais je peux pas parier sur l'avenir, je ne sais pas.
Ou peut-être les faire croiser
Oui, par contre je l'ai fait, les personnages se croisent d'un roman à l'autre. Alors, en général un personnage principal va devenir très secondaire et apparaître juste dans un chapitre du livre suivant. Je me suis amusée à ça, mais c'est plus un jeu qu'une vraie un vrai arc narratif, on va dire.
D'accord. Alors Anne-Michel, on rappelle, hein, N'oublie pas la lumière, c'est déjà votre quatrième roman aux éditions Presse de la Cité. On peut nommer un Matin d'écume qui avait reçu un prix en 2017, prix Terre de France Ouest France, pour Quelques bulles de bonheur et des cailloux dans la poche, et aujourd'hui N'oublie pas la lumière, un roman lumineux, hein, comme le dit votre titre, qui devrait beaucoup parler aux contemporains, parce que vraiment ça nous ramène à cette envie de tout claquer pour faire une nouvelle vie dans un lieu qui nous ramène à l'enfance et au bonheur, et dont votre personnage Lou va se donner corps et âme à ce projet. Va-t-elle y parvenir? C'est ce qu'on va laisser nos amis auditeurs découvrir. Et vous, je crois qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux si on veut suivre votre actualité, peut-être une présence dans un salon à l'automne. On clique sur
Anne-Michel Autrice. Anne.michel.autrice.
Très bien.
Donc, effectivement, on me retrouve sur les réseaux sociaux avec plaisir.
Et sinon, on clique sur collection-terredefrance.fr pour en savoir plus sur votre titre N'oublie pas la lumière, et même commander en ligne si vous n'avez pas la chance d'avoir une librairie près de chez vous. Merci encore à vous, Anne-Michel. On vous souhaite beaucoup de succès pour N'oublie pas la lumière, un roman qui, franchement, serait sur petit ou grand écran, ferait un vrai carton, parce que c'est une très belle histoire, une histoire aussi de relations humaines, hein, relations amoureuses, et ça serait un magnifique roman de l'été. Merci à vous, Anne-Michel, et à très bientôt.
Je vous remercie beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
IDFM Radio, le média valdoisien.
pas choisir le thème, 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 pas qu'on t'enferme.
Tu crois que tout est vague, loin de ta cage, fais sur place. Tu crois, poisson qui nage, bien dans ta main.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Une vendeuse en pause allume morose sa deuxième cigarette. Sur le trottoir arrière de la rue derrière les galeries Lafayette. Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait. Presque du bonheur quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet. Une vendeuse en pause vêtue comme impose le grand magasin. Du côté livraison, réservé camion qui décharge au matin. Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait. Presque du bonheur quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet. Rayon maroquinerie, elle attise l'envie de clients aisés. Vend des jolis sacs à la mode et de marque qu'elle ne peut pas acheter. Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait. Presque du bonheur quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet. Elle joue son rôle et bien, je la regarde de loin, un peu dissimulée. Comme j'ai l'air d'un pervers, le vigile me repère, je préfère m'en aller. Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait. Presque du bonheur quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet. Je laisse ma vendeuse à ses babioles coûteuses, à mes souvenirs. L'espère heureuse, rien ne s'y oppose, ça s'appelle l'avenir. Adieu ma vendeuse, ne sois pas malheureuse, je te l'interdis. Je voudrais te le dire, mais je dois m'enfuir, le vigile me poursuit. Revenu en cachette, bonnet et lunettes, mais tu n'étais plus là. Côté livraison, côté rayon, pas de trace de toi. Maintenant où es-tu? Je ne le serai plus, salaud de Cupidon.
garder près de moi, je t'ai mise, m'en veux pas, dans cette chanson. Pour te garder près de moi, je t'ai mise, m'en veux pas.
Explorer les mystères du cosmos avec Franck, votre guide céleste dans À toi les étoiles. Tous les troisièmes dimanches du mois, de 13h à 14h, plongez dans l'astronomie et l'astronautique. À toi les étoiles, l'astronomie à la radio, l'émission sérieuse mais jamais ennuyeuse, où les étoiles révèlent leurs secrets. Rendez-vous avec Franck le troisième dimanche de 13h à 14h. Parce que rêver d'explorer l'espace, c'est déjà commencer le voyage.
Retrouvez la matinale du lundi au vendredi de 7h à 9h30. Toute l'actu locale, la météo, l'horoscope, l'album de la semaine, des cadeaux à gagner et l'invité du jour avec Christophe sur IDFM Radio.
Bonjour, c'est Jacqueline Voraz sur IDFM Radio. Retrouvez-moi tous les mardis et vendredis matin de 9h30 à 11h dans l'économie en direct. Une émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise, aux artisans, aux associations, aux élus, aux instituts de formation. Bref, à tous ces passionnés qui participent à la vie économique ou politique du territoire. Alors, pour en savoir plus, n'oubliez pas, rendez-vous le mardi et vendredi de 9h30 à 11h dans l'économie en direct sur IDFM Radio.
IDFM Radio. Le média valdoisien.
Et nous retrouvons Lily Saune, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre dernier album de bande dessinée. Il s'intitule « Mon village révolté ». C'est paru chez Delcourt dans la collection Ancrage. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas votre travail, vous êtes scénariste, dessinatrice. On vous doit de nombreux albums, dont, si je ne dis pas de bêtises, « La guerre des tétons ».
C'est ça.
Aidez-moi, s'il vous plaît.
La guerre des tétons, Vagin Tonic, Mama, Nos poils, etc., etc.
Et là, c'est un tout autre univers, si je peux dire, que vous nous faites découvrir, car vous nous invitez à découvrir, si j'ose, enfin le terme n'est pas ce que je veux utiliser, mais vous nous emmenez dans un univers que l'on voit pas finalement assez peu en bande dessinée, celui d'une communauté qui essaye de tout faire pour éviter un projet monstrueux qui va défigurer son territoire. C'est le projet d'une autoroute près d'un village que vous connaissez très bien parce que c'est le village de votre enfance. On est en Alsace et vous nous avez raconté à travers un album de bande dessinée votre retour dans ce village pendant un festival qui était là pour faire monter un peu la population et tous les gens qui veulent aller dans votre sens, c'est-à-dire éviter ce projet ou en tous les cas faire bouger les mentalités sur ce projet d'autoroute. Et vous nous racontez toutes vos aspirations, votre appréhension aussi de retourner dans ce village que vous avez quitté depuis fort longtemps parce que vous n'y avez plus d'attache. Et c'est formidable parce que on va à la fois voir la citoyenne qui fait tout pour sa lutte contre ce projet, les rencontres qu'elle va faire, notamment des retours, des retrouvailles avec des anciens du village, des anciens, des gens de votre époque. Et c'est à la fois réjouissant parce qu'on voit qu'il y a une vraie vivacité, vitalité pour lutter contre de tels projets. Bon, évidemment, on connaît l'histoire, malheureusement. L'autoroute est quand même arrivée. Néanmoins, on voit que ça fait se rapprocher des hommes et des femmes autour d'une lutte commune pour la sauvegarde de leur patrimoine, de leur environnement, et c'est très très bien fait. Alors, comment vous est venue l'idée de cette bande dessinée ? C'était vraiment pour témoigner ?
Ben déjà, merci beaucoup pour ces mots sur cette BD qui vient juste de sortir. Moi, aussi longtemps que je me souvienne, l'ombre de cette autoroute planait déjà quand j'habitais là-bas, quand j'étais petite. Et je suis partie m'installer à l'étranger, et c'est là que ça a commencé à devenir un peu plus réel, ce projet d'autoroute-là. Et donc j'ai suivi un peu à distance en fournissant des images et en essayant de suivre la lutte au plus près, mais de loin, on va dire. Et maintenant que je suis rentrée en France et que j'ai été invitée à ce festival, en fait, qui essaye de faire perdurer la lutte qui s'est établie contre cette autoroute, je suis revenue, en fait, et tout le monde a commencé un peu à me raconter, et j'ai vu à quel point elles avaient été traumatisées par ce qui s'était passé, comment aussi le fait de vivre ensemble, de lutter ensemble, les avait galvanisées, ce qu'ils avaient trouvé, en fait, dans ce commun, en fait, dans cette lutte commune. Et je les ai trouvées très courageux et très courageuses d'avoir lutté autant de temps. Ils ont quand même réussi à faire reculer la construction de l'autoroute de 10 ans, oui. Ce qui est, je trouve, énorme, sachant que c'était très peu médiatisé et qu'ils avaient un peu d'espoir, mais pas non plus énormément. Et c'était des gens qui n'étaient pas forcément écolos. C'était beaucoup d'habitants, d'habitantes qui ont découvert aussi le respect du vivant à travers ce combat, et qui ont côtoyé des gens avec qui ils n'auraient peut-être jamais discuté, des zadistes, des militants, des activistes, des politiques, enfin, voilà, j'avais vraiment envie de partager cette histoire parce que moi aussi, ça me permettait, souvent je vois des choses à la télé, je me dis que c'est horrible, et souvent je suis un peu anesthésiée, on va dire, je regarde mais je ne fais rien, et pour moi aussi, faire le récit de cette lutte, c'était peut-être de passer aussi, de sortir de cette anesthésie et de passer à quelque chose de plus concret, en fait, en montrant que n'importe qui peut lutter.
Et c'est assez prodigieux parce qu'on voit des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des forts politisés, des pas du tout politisés, des religieux aussi, parce qu'il y a beaucoup de spiritualité aussi, des amateurs de nature, d'autres qui sont juste là parce qu'ils veulent pas voir cette autoroute au bout de leur jardin. Alors on rappelle, c'est le GCO, le Grand Contournement Ouest, qui, comme vous le rappelez, dès le début de l'album, dès 2004, on vous indique que d'ici quelques années, il paraît qu'il y aura une autoroute, et on voit donc un conducteur à la voiture, j'imagine que c'est un de vos parents, et qui pointe du doigt le village, et puis on s'imagine pas du tout que là, derrière, il y aura une autoroute. Et puis, page suivante, eh bien, c'est 20 ans après, et on vous voit dans le train, justement, en route pour ce village. Je n'ose pas le prononcer parce que j'ai peur d'écorcher son nom.
Alors oui, Kolbsheim, je sais, mais c'est pas le pire village à prononcer. Hein.
Non, mais
il est
je
à côté
me suis
de
pas...
Breuschwickersheim, celui-là est beaucoup plus difficile.
Alors, ce qui est bien aussi, c'est que vous c'est un album de bande dessinée, donc vous illustrez très très bien cette fameuse ce futur GCO avec on voit le plan du village. Avec le château, l'église, la mairie. Enfin bref, on voit exactement où se trouve cette autoroute. Et évidemment, combien ça va nuire au village et à tous ses habitants. Et évidemment, à la nature. Hein. Vous rappelez à travers différentes pages, c'est Merle d'eau, c'est Martin Pêcheur. Et toute cette faune et cette flore qui va être victime de ces travaux. Et puis, vous nous rappelez aussi l'histoire des autoroutes en France, parce que finalement, c'est plutôt récent. Et quand il y a des projets et qui vont à terme, c'est des projets qui sont sur des décennies. Et vous expliquez même les fameuses mesures compensatoires. Alors là, on tombe de très très haut, mais bon, c'est notre société, et là encore, vous nous donnez toujours les sources pour celles et ceux qui seraient un peu dubitatifs. Par exemple, là, vous avez retrouvé des informations sur Reporter, Mediapart, et là encore, c'est important. Hein. De donner les faits, que ce ne sont pas des uluberlus de villageois au fin fond de l'Alsace qui ne veulent pas de bitume, de touristes et de camions au bout de leur jardin. Non, ce sont des projets gargantuesques qui engloutissent tout et qui dédommagent finalement niette, quoi.
Ah oui, bah c'est une gigantesque blague en fait. On est vraiment sur du greenwashing. On fait semblant que ça emporte en fait le vivant, alors que là, par exemple, il y a une espèce de fleur endémique qui s'appelle la gagée velue, et la mesure compensatoire a été de déplacer la terre dans laquelle elle pousse à un autre endroit. Et bien sûr, ça ne marche pas, puisqu'il y a tout un écosystème très particulier, très singulier pour que cette fleur pousse. Enfin, c'est que des trucs un peu, enfin, qui sont faux, fous,
et la complaisance,
et qui nous prennent pour des andouilles, quoi.
Et puis la complaisance des directions régionales de l'environnement, ces fameuses politiques qui sont censées finalement réguler, surveiller, interdire. Là. Ils ferment les yeux, ou en tous les cas, il se passe rien.
Il y a eu des rendus défavorables à ce projet, mais en fait, ils n'ont pas été du tout écoutés. Et à la fin, c'est le préfet qui a autorisé les travaux, et le préfet, c'est directement en descente du président de la République. Donc, je pense que peu importe ce qu'on aurait pu faire, cette route, elle allait être construite. Et en fait, c'est un exemple en Alsace, mais il y en a d'autres. On a entendu parler de la 69, où là, il y a eu une lutte qui a été très médiatisée, où les gens se sont vraiment rendus compte à quel point les autoroutes, en fait, aujourd'hui,
elles
ne servent plus à rien. Et qu'on doit développer le transport collectif. Alors, bon, la 69, c'était encore une autre histoire, puisque ça desservait seulement certaines personnes. Mais voilà. Enfin, j'avais envie de montrer aussi, et dans la BD, je dézoome sur cette histoire d'autoroute qui, soi-disant, avait été prévue pour aider les gens à mieux se déplacer en Alsace, et on se rend compte que ça aussi, c'était aussi faux, puisqu'aujourd'hui, c'est un vrai couloir à camion qui dessert, en fait, tout un trafic européen, voire mondial, en fait.
Oui, ça a été à contre-courant de ce que voulait ce projet. On rappelle, c'est des projets qui sont tellement vieux que le temps qu'ils se mettent en place, ils sont complètement dépassés. Et on découvre aussi le monde de la ZAD, la fameuse zone à défendre. Entre militants et zadistes, vous nous rappelez les quelques différences. Vous nous rappelez également que le climat joue beaucoup, la météo aussi, hein, parce que c'est difficile d'être dans ce type d'endroit où on est coupé de tout, parce que bon, forcément, des milieux un peu sauvages, et dès qu'il fait un temps de chien ou autre, c'est compliqué de garder les militants et les zadistes sur place.
Bah, complètement, enfin je veux dire, on aime tous notre petit confort, et c'est des gens qui quand même vont camper dans des endroits qui sont pas forcément des plus confortables, hostiles, parfois boueux, avec des moustiques, et alors c'est génial, c'est en pleine nature, mais des fois c'est pas évident, quoi. Et là c'est vrai que quand il a commencé à faire froid, les gens avaient du mal un peu à rester, et c'est tout à fait normal, hein.
Surtout que, on rappelle, très très peu médiatisé au niveau national, donc finalement, c'est pas toujours évident de se battre contre ces moulins à vent que sont les grandes institutions et les très grandes entreprises. Il y a un mot aussi qui revient beaucoup, tel un slogan, parce qu'on n'a pas trop parlé de vos illustrations, mais ça fait beaucoup penser à des slogans, à des graphes qu'on verrait sur les murs. C'est aussi le mot révolution. Ça vient beaucoup au mot de certains, parce que on sent que il y a quand même une envie de rentrer dans ces grandes institutions, ces grandes entreprises, pour leur dire non, vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez sur nos sols, sur nos territoires, parce que vous avez l'argent ou le pouvoir.
Y a aussi cette idée, je trouve, qui revient beaucoup dans tout l'album et dans tout ce que j'ai pu percevoir, c'est cette idée de violence ou de non-violence, et que souvent, dans les milieux militants, il y a vraiment cette envie de surtout pas aller dans la violence, parce que quand on va dans la violence, on perd le soutien citoyen. Mais le problème, en fait, c'est que on imagine la violence comme une violence physique qui ferait mal physiquement, mais tous ces militants, tous ces gens-là, en fait, et beaucoup de citoyens subissent une violence de la part de l'État, dans le fait de ne pas être écoutés, dans une démocratie où on écrase tout le monde en prenant des décisions, on écrase le vivant, on écrase les gens. Donc ça, finalement, c'est une énorme violence. Et en face, les militants, les militantes n'ont pas forcément toujours des moyens énormes pour répondre. Mmh. Et là, il faut noter aussi que tous ces villageois qui n'étaient pas forcément militants à la base ont été extrêmement choqués par la violence policière aussi à laquelle ils ont dû faire face. Et c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais imaginé avant, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore un traumatisme d'avoir vu ces CRS, ces gaz lacrymo, ces hélicoptères. Enfin, ça a été un... Enfin, voilà, il et elle en parlent encore beaucoup aujourd'hui.
Et c'est très important aussi de le rappeler, aussi lorsqu'il y a cette coupe hein, des bois, de la forêt, c'est... incroyable, on voit étape par étape comment les manifestants ont essayé donc de retarder un maximum ces travaux. On voit aussi des sourires hein, parce que ils sont assez truculents hein, celles et ceux que vous allez rencontrer parce que malgré tout, et vous le rappelez très très bien, ce n'est pas une défaite parce que le projet a été reporté d'une dizaine d'années, ce qui est franchement un vrai succès. Et c'est aussi le fait que malgré tout, la désobéissance a permis cela, des désobéissances civiles, c'est-à-dire l'envie de dire son mécontentement ou son... refus d'un projet dont les principaux visés ne sont même pas invités à réfléchir ou à donner leur consentement. Là aussi, il y a le mot résistance qui revient souvent. C'est important aussi d'expliquer aux jeunes générations, comme aux moins jeunes, parce que c'est toutes les générations qui sont représentées dans votre album que l'on peut se battre. Il y a aussi de très belles couleurs, parce que même si c'est à la fin du béton, du goudron, cette autoroute, il y a aussi tout autour ces rivières, ces espaces verts, cette agriculture, parce que l'Alsace, c'est aussi une région très agricole.
Ben oui, enfin pour moi, c'est hyper important. L'histoire n'est pas forcément des plus joyeuses, même si ce que j'avais envie de mettre en avant, justement, c'était la distance de ce militantisme, se vivre ensemble et cette lutte qui a été super joyeuse quand même si déceptive à la fin. Mais je pense que... tout le monde, et moi y compris, on s'est vraiment tourné vers le vivant, on a appris à regarder encore plus, à faire attention. Et à travers ces peintures qui me servent de décor, c'est ce que j'avais vraiment envie de mettre en avant et de mettre en parallèle avec l'histoire un peu plus sombre de la construction de cette autoroute.
Et puis il y a aussi ces touches d'humour, hein. J'invite nos amis auditeurs, s'ils sont à l'écoute sur idfm98.fr, vous cliquez sur Mon village révolté de Lily Saune et vous allez découvrir la quatrième de couverture qui est un petit bijou, je ne vais pas en dire plus, mais c'est ça aussi, il y a un peu de tout, c'est-à-dire c'est les montagnes russes, hein. Lorsqu'on s'oppose à de tels projets, on croit qu'on va y arriver quand certaines institutions bloquent le projet, on s'y voit, enfin on a gagné, et puis juste derrière, non, le politique met son veto et oblige la poursuite des travaux. C'est tout ça hein, qu'on retrouve dans Mon village révolté. C'est une manière aussi de voir le combat de villageois, ces irréductibles gaulois, hein, dirait un autre auteur de bande dessinée. Et c'est formidable, Mon village révolté. Est-ce que suite à cet album, ça vous a donné encore plus envie de retourner sur place?
C'est sûr que moi, ça m'a permis de renouer avec les protagonistes, notamment l'ancien maire et la pasteur, qui m'ont apporté vraiment un témoignage immense, beaucoup de contenu et m'ont beaucoup soutenu pendant tout ce projet. Et là, je pars cette semaine pour aller justement faire le lancement de la bande dessinée là-bas et faire une petite exposition des planches originales dans l'église du village, donc et revoir un peu tout le monde.
Ah ça c'est formidable. En plus, on rappelle, hein, ça vient juste de sortir en librairie. On peut nous donc vous retrouver en librairie, également sur internet. Vous avez votre propre site lilysaune.com, lilysohn.com, et ainsi retrouver des extraits de vos précédents albums. Si je dis pas de bêtises, on peut également vous contacter. Hein, pour échanger avec vous et dites-nous tout. Il y a, je vois, du podcast, plein de choses.
Oui. J'ai un album où j'ai raconté l'histoire de mon immeuble. Je suis marseillaise et qui est un album BD et un podcast qui est disponible sur toutes les plateformes qui s'appelle Chronique du Grand Domaine.
très bien. Et en attendant, on va se précipiter découvrir ce dernier titre, Mon village révolté. C'est génialissime. C'est un format un peu différent d'un album classique qui compte une quarantaine de planches. Là, on est sur 288 pages en couleur. C'est paru chez Delcourt dans la collection Ancrage. Ça parle de thèmes, on le rappelle, la lutte rurale, écologique, des rapports humains. C'est dessiné et scénarisé par vous, une habitante, une ancienne habitante de ce village, donc qui connaît très bien son sujet, et c'est une manière de découvrir autrement le militantisme, le zadisme, la désobéissance civile, et voir comment un projet aussi énorme que la construction d'une autoroute peut se heurter à des habitants qui se projettent sur une autre idée de leur environnement, et ça peut-être aussi inciter celles et ceux qui ont ce type de projet autour de chez eux, qui ne sont pas seuls et qui peuvent aussi réagir et fédérer autour d'eux, parce que c'est ce qui a été le cas pour votre village, dont on rappelle le nom.
Mon village révolté, aux éditions Delcourt.
Et qui s'appelle ce village Kolbeich. Ah non, voilà, j'ai raté mon coup. Je ne vais pas le refaire. Hein.
Kolbsheim.
Kolbsheim, qui s'écrit K-O-L-B-S-H-E-I-M, qui se trouve en Alsace, et qu'on va inviter nos amis auditeurs à aller aussi découvrir. Hein, les vacances approchent. C'est un très, très bel endroit. Ne prenez pas l'autoroute. Il y a de très belles nationales départementales qui vous amèneront jusque-là. Et puis, vous pourrez ainsi croiser les héros de Mon village révolté, à retrouver donc chez Delcourt. Là aussi, hein, vous avez le site editiondelcourt.fr pour découvrir quelques extraits de ce très bel album. Merci encore à vous, Lily Saune, et puis on va vous suivre sur internet, enfin sur votre site. Je ne sais pas si vous allez à la rencontre de vos lecteurs prochainement.
Eh bien, la semaine prochaine en Alsace, mais après il y aura sûrement d'autres dates, et je mettrai à jour toutes les informations sur mon site.
Eh bien, c'est noté. Merci à vous, et puis on vous souhaite beaucoup de succès, de belles rencontres autour de Mon village révolté, paru chez Delcourt. Merci encore à vous. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Voilà qu'on pleure, retour d'une croix. Qu'on jette des fleurs, qu'on parle de moi. C'est une belle journée d'été, tout le monde s'est habillé. Les mots qui sortent, qu'on ne disait pas. Le vent les apporte jusqu'à moi. Si limpide, limpide du dehors.
Tout là.
IDFM Radio, le média valdoisien. IDFM Radio, le média valdoisien.
Et nous arrivons au terme de l'émission. L'heure pour moi de vous rappeler que nous étions avec la romancière Anne Michel pour N'oublie pas la lumière. C'est son dernier roman par aux éditions Presse de la Cité, collection Terre de France. Puis nous venons de raccrocher avec Lily Saune pour son très bel album de bande dessinée Mon village révolté, à retrouver chez Delcourt dans la collection Ancrage. On se quitte en musique. Merci encore à vous pour votre fidélité sur les ondes d'IDFM Radio. À la semaine prochaine, même endroit. Au revoir.
Je vais, je viens, ça monte et je pense à vous. Tous les mecs et les filles de mon âge me regardent comme si je fais la rage. Je jouerai avec ou sans vous. Oh, ça ne m'importe pas. J'imagine tous vos jolis visages. Ça me fout dans un drôle d'état. Je n'ai besoin de rien du tout. C'est entre moi et moi. Je vais, je viens, ça monte et je pense à vous. Je n'ai besoin de rien que de mon secours. Je vais, je viens, ça monte et je pense à vous. La vie, le feu.
sur les détails, je choisis le rythme et les mouvements. Tous les mecs et les filles de mon âge me regardent comme si je fais la rage. On dit de moi que je suis fou et que ça me passera. J'ai la fièvre à tous les étages, ça me brûle dans le bout des doigts. Je n'ai besoin de rien du tout, c'est entre moi et moi. Je vais, je viens, ça monte et je pense à vous. Je n'ai besoin de rien que les mots secours. Je vais, je viens, ça monte et je pense à vous. La vie, le feu, le sang, j'ai la main sur tout. Il y a dans mon geste une forme de poésie. Il y a dans mon geste comme un air de vent d'éteint. Il y a dans mon geste une forme de poésie.
La matinale du lundi au vendredi de 7h à 9h30. Toute l'actu locale, la météo, l'horoscope, l'album de la semaine, des cadeaux à gagner et l'invité du jour avec Christophe sur IDFM Radio.
Bonjour, c'est Jacqueline Voras sur IDFM Radio. Retrouvez-moi tous les mardis et vendredis matin de 9h30 à 11h dans l'économie en direct. Une émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise, aux artisans, aux associations, aux élus, aux instituts de formation. Bref, à tous ces passionnés qui participent à la vie économique ou politique du territoire. Alors, pour en savoir plus, n'oubliez pas, rendez-vous le mardi et vendredi de 9h30 à 11h dans l'économie en direct sur IDFM Radio.
Explorez les mystères du cosmos avec Franck, votre guide céleste dans À toi les étoiles. Tous les troisièmes dimanches du mois, de 13h à 14h, plongez dans l'astronomie et l'astronautique. À toi les étoiles, l'astronomie à la radio, l'émission sérieuse mais jamais ennuyeuse, où les étoiles révèlent leurs secrets. Rendez-vous avec Franck le troisième dimanche de 13h à 14h. Parce que rêver d'explorer l'espace, c'est déjà commencer le voyage.